Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diversité et Inclusion en Entreprise. Je suis Adrien Figula-Lotor, cofondateur d'AFL Diversity. Notre mission, aider les entreprises à être plus inclusives. L'une des solutions que nous avons trouvées pour faire avancer le sujet, c'est le partage. Le partage des bonnes pratiques, des conseils, des difficultés rencontrées aussi, pour permettre aux autres, à celles et ceux qui ont envie d'agir, de trouver des solutions concrètes pour faire avancer le sujet dans leur entreprise. Le partage, mais aussi la mise en lumière de ce que font les organisations partout en France, quel que soit le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise. Et pour cela, nous avons créé le Grand Prix Diversité et Inclusion. La première édition a eu lieu en 2022. Je vous propose de partir dans ce podcast à la rencontre des lauréats de ce premier Grand Prix pour qu'ils nous expliquent comment ils agissent concrètement pour une société plus inclusive. Bonne écoute! Pour ce tout dernier épisode de la saison 2, j'ai l'immense plaisir de recevoir la grande gagnante du Grand Prix Diversité et Inclusion 2022, la Gendarmerie Nationale. Capitaine de Thé, bonjour.
Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on est très heureux de pouvoir partager ce moment privilégié avec vous. Vous occupez depuis le 16 août 2021 les fonctions de référente nationale égalité et diversité à la Gendarmerie Nationale. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter, revenir aussi sur votre parcours, ce qui vous a amené à occuper ces fonctions aujourd'hui, et puis enfin nous expliquer quelles sont vos missions à la Gendarmerie Nationale.
D'accord, donc effectivement j'ai pris mes fonctions en août dernier, donc je suis sur cette thématique depuis 2012. Pour revenir à mes fonctions actuelles, je suis chargée de la déclinaison de la politique ministérielle égalité professionnelle et diversité, donc au sein du ministère de l'Intérieur. Et pour ce faire, donc, on mène des campagnes de sensibilisation, des actions, et surtout, je suis donc à l'origine, enfin, nous sommes à l'origine de la déclinaison d'un plan d'action qui nous est propre, qui fait suite au plan d'action qui a été signé par Marlène Schiappa et le ministre de l'Intérieur le 8 mars 2021. Donc bien sûr, la gendarmerie s'est associée à ce plan d'action, mais compte tenu des spécificités de notre statut militaire, nous avons donc décliné notre plan d'action, un plan d'action qui nous est propre. Alors en fait, sa particularité, c'est qu'il résulte d'une réflexion commune, c'est-à-dire que nous sommes allés vers nos référents, vers nos personnels, pour avoir un diagnostic. On a posé un diagnostic pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en était au niveau de la politique égalité-diversité au sein de la gendarmerie, mais également de la diversité, tout ce qui était prévention des LGBT-phobies et tout ce qui était harcèlement, et, harcèlement moral, harcèlement sexuel, VSS, violences sexistes et sexuelles. Donc en fait, pendant quasiment 6 mois, on a réuni des groupes de travail avec donc des réflexions sur, donc, je dirais, le bien-être au travail, mais également leurs ressentis, par rapport à la place des femmes, les freins, également pareil pour tout ce qui était, je dirais, discrimination, les 27 critères de discrimination, ce qu'ils entendaient. Parce que parfois, c'était intéressant, on a posé des questions sur qu'est-ce que LGBT. Certaines personnes ne savaient pas ce que voulait dire, par exemple, LGBTQI+. Vous voyez, on se rendait compte qu'il y avait un petit problème, de communication, mais d'information dans nos rangs. Et c'était intéressant. Et donc, en fait, on a également conclu qu'il fallait faire un plan d'action beaucoup plus ouvert sur, je dirais, la diversité, avec des axes bien, bien précis. Donc, parmi ces axes, donc c'est un plan d'action qui a 5 axes, 22 mesures et 57 actions. Vous allez me dire, il est vaste. Je vais vous répondre non, il est riche. Il est riche parce qu'en fait, il est triennal. Et en fait, on a voulu tout couvrir. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que je ne vais pas vous citer tous mes axes, mais dans mes principaux axes, on a bien sûr la formation, parce que c'est hyper important, je vous expliquerai pourquoi après. On a également axé sur l'équilibre des temps de vie, parce que l'égalité professionnelle, c'est bien, discrimination, harcèlement, c'est bien, mais aujourd'hui, le bien-être au travail, c'est encore plus important, on est d'accord. À partir du moment où c'est que vous avez un employé heureux, que vous avez un employé épanoui, le boulot sera bien mieux fait. Et on a réfléchi un petit peu justement sur cette thématique, et on a axé également sur l'équilibre des temps de vie. Ça, c'est hyper important. Donc la formation, mais également par rapport, je dirais, à tout ce qui était harcèlement moral, sexuel et sexiste, on a également mené une réflexion sur les sanctions, parce que c'est bien beau de faire la prévention, mais après, il faut pouvoir sanctionner. C'est ce qui est fait également au niveau de la gendarmerie, sachant que, quelque part, le fait d'être gendarme, entre guillemets, je ne dirais pas que c'est un fait aggravant, mais on est bien d'accord que lorsqu'on est gendarme, on prend les plaintes des victimes, donc on ne peut pas être auteur. Et c'est pour ça que la sanction doit être à la hauteur, je dirais, de ce qui a été commis, en fait. Donc, pour ce faire, On a décidé de mener des campagnes de prévention au plus près du terrain, mais également on a appelé l'attention sur les sanctions. C'est-à-dire que tolérance zéro, c'est la politique de notre DGGN, directeur général de la Gendarmerie nationale. Tolérance zéro, voilà. On ne rien laisser passer. Voilà. C'était le mot d'ordre de Marlène Schiappa qu'effectivement, nous aussi, on reprend. Parce que voilà, et on doit être, je dirais, on doit être, on est quand même à la, on est chargé de la sécurité des personnes et des biens, justement, donc on doit veiller sur eux. Et pour ça, voilà, on doit veiller au bien-être de la population. Voilà, donc ça, c'est un petit peu notre plan d'action. Mais également, la particularité de ce plan d'action, je dirais, ce sont les indicateurs. Parce qu'en fait, lorsqu'on a été renouvelé, donc là, ça y est, cette année, on est renouvelé pour 4 ans, le label AFNOR, hein, Égalité pour la diversité. En fait, on s'est rendu compte lors du label intermédiaire à 2 ans qu'en fait, hein, on n'avait pas suffisamment de reporting. C'est-à-dire qu'on avait des plans d'action, on avait des suivis, des réunions, des actions, mais il n'y avait pas de retour en fait. Vous voyez ? Donc ce qu'on a fait, on a décidé, donc aujourd'hui j'ai actuellement 500 référents qui sont répartis sur le territoire métropolitain et outre-mer. Ces référents, ils ont tous un code savoir, c'est-à-dire c'est un code qui leur est donné sur leur dossier personnel en base. Ce qui fait que à chaque fois qu'ils vont mener une campagne de sensibilisation, lorsqu'ils vont être dans une brigade pour faire une information, il va y avoir un code savoir qui va se mettre en place, une codification en base, ce qui fait qu'on saura tel jour à telle heure où est-ce qu'il était et ce qu'il a fait. Donc c'est important à double titre pour lui, déjà, parce que ça permet d'être reconnu, mais également pour les personnes qui sont sensibilisées, parce qu'on sait qui est sensibilisé. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un monde de la sanction. Si une personne qui a été sensibilisée est re-sensibilisée, si elle commet un fait, un méfait, on lui dira, elle ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas.
Bien sûr.
Oui, ce que je veux dire. Donc, on fait de la prévention, mais c'est de la prévention intelligente, c'est de la prévention ciblée avec une traçabilité. Et ça, c'est hyper important. Donc, avec notre plan d'action, on a un recueil de données tous les 6 mois. C'est une obligation. Comme ça, on les suit, je dirais, tous à part. Donc, voilà un petit peu la déclinaison du plan d'action de la gendarmerie. À côté de ça, donc, au niveau de mes missions, donc, moi, je suis également formatrice relais, c'est-à-dire que je forme les référents égalité-diversité. Donc, voilà, je fais également du recyclage. Et je traite également des situations personnelles. C'est-à-dire que je suis entre pas cellule d'écoute, mais j'interviens pour les personnes qui sont en difficulté, qui se posent des questions, notamment pour les personnes qui sont en situation de changement d'identité de genre.
Ok, mais vous faites ça toute seule, capitaine de thé?
Oui, je ne m'ennuie pas.
Hein. J'imagine.
Donc, je suis cliente, la commandante de Vesoul, et j'ai quand même des référents. J'en ai quand même 500 sur le territoire national, et voilà.
Parlez-nous justement, pardonnez-moi, de ces références, ça m'intéresse. Comment finalement vous réussissez à animer un réseau de 500 référents? Alors je sais que vous êtes nombreux hein, à la Gendarmerie nationale, donc c'est normal que le réseau de référents soit énorme, mais peut-être revenez sur comment vous les avez recrutés, ces référents, est-ce que c'était volontaire? Et puis finalement, comment on anime cette communauté de référents pour avoir finalement un maillage comme ça sur l'ensemble du territoire?
Donc au départ, en fait, c'est venu en 2016, hein, on a commencé justement à faire appel à nos référents. Donc on a lancé en fait des appels à volontaires, parce que pour être référent, il faut être volontaire. Il ne faut pas les désigner, ça n'est pas une obligation. Parce que en gendarmerie, c'est quelque part du bénévolat. Donc il faut que la personne elle, ait envie. Et pour lui donner envie, hein, dès 2016, on a fait des actions de sensibilisation nous-mêmes. On est allé sur le terrain, on a expliqué ce qu'était le réseau égalité-diversité et pourquoi il fallait s'intéresser, je dirais, à l'égalité-diversité, mais également à la discrimination. On est allé vers eux, en fait. C'est ça qui était intéressant. Donc, on a commencé à recruter et les personnes ont vraiment souhaité échanger avec nous. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que tous les référents, les 500, sont tous formés en amont, mais la particularité, c'est qu'ils sont formés en présentiel. Rien n'est fait, en EAD, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas bon. Alors, je ne sais pas dans les entreprises comment ça se passe, mais des retours que j'ai. Lorsque la formation elle est faite en EAD, en général, la personne elle va prendre un café, elle va prendre un thé, ou elle va guetter sur Google pour avoir des réponses. Enfin bon, voilà, ça passe, hop là, comme une lettre à la poste. Et ce n'est pas bon, en fait. Alors que lorsqu'il y a du présentiel, il y a quand même un échange. Alors l'EAD, pour terminer après, oui, bien sûr, en support, mais il faut quand même qu'il y ait un contact, comme vous et moi aujourd'hui. Il faut qu'on puisse se voir. Et ça, c'est hyper important. Donc, à l'époque, je suis allée voir des référents, je suis allée à leur rencontre, mais surtout, on a mis en place des coordonnateurs égalité-diversité, parce que toute seule, je n'y serais pas arrivée. Il y a donc 43 coordonnateurs, donc 1, 2, 3, 4 par région, en fonction, je dirais, des formations administratives, si elles sont spécialisées ou pas. Aujourd'hui, j'en ai 43. Et ces personnes, elles me font le lien avec mes référents. En plus de ça, chaque référent a une lettre de mission. En fait, c'est ce qui lui permet à lui aussi d'être reconnu et d'être identifié. Il a une lettre de mission avec ce qu'il doit faire, ce que j'attends de lui, c'est-à-dire sensibiliser, faire des actions de prévention, être présent sur les grands événements, bien sûr, le 17 mai, le 25 novembre, le 8 mars, la marche des fiertés, mais le mois, pardon, des fiertés, mais également d'autres événements, parce que comme je dis, la prévention, tout ce qui est lutte, c'est pas que le 17 mai, le 25 novembre ou le 8 mars, on est bien d'accord.
Bien sûr.
C'est au fil de l'eau, c'est toute l'année. Et donc ça, c'est hyper important. Donc des lettres de mission pour les référents. Donc dans chaque département, donc, en général j'en ai deux par département, mais parfois plus. Parfois ça descend au niveau de l'arrondissement, en fonction de la grosseur du département ou si l'arrondissement a besoin. Donc c'est des actes de volontariat, mais ce sont les patrons des groupements, des départements qui les acceptent ou pas, parce qu'il faut quand même faut que ça passe bien, hein, d'accord, faut qu'il y ait un échange. Ensuite de ça, donc les lettres de mission, donc je les reçois, enfin les coordinateurs les reçoivent et après c'est moi, donc pour vous dire, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et ça permet d'avoir une arborescence de mon réseau. En fait, j'ai une ossature. Mon réseau, il y a une ossature. Donc vous avez les référents au niveau des départements, arrondissement, département. Vous avez les coordinateurs au niveau des formations administratives, donc des régions. Et après, donc, vous avez moi avec, entre guillemets, ma suppléante. Et donc ça, c'est important. Donc les référents, à titre d'information, ils sont formés en école. Parce qu'aujourd'hui, en gendarmerie, tous les personnels, quel que soit leur recrutement, reçoivent une formation, enfin en formation initiale, ils reçoivent un module discrimination, harcèlement, enfin déontologie. Okay. Et tout au long de leur carrière, ils vont recevoir, entre guillemets, des piqûres de rappel. Okay. Voilà, et c'est pareil au niveau des référents. Les référents, c'est une formation en plus. La particularité de cette formation, c'est qu'elle est disruptive. C'est-à-dire, on a décidé de faire une formation, on a sondé avant nos référents. On leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Et en fait, ils nous ont dit, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est comprendre. Voilà, comprendre les termes, comprendre un petit peu, donner du sens à notre formation, voir ce que l'on attend de vous, sachant en plus que c'est en interne, mais c'est également important pour l'externe, notamment dans le cadre de l'accueil des victimes, vous voyez, ou des échanges lorsqu'il y a des accueils des personnes qui sont victimes, mais de tout, pas forcément de LGBT, on y est d'accord, LGBT-phobie par exemple, c'est pour tout. Donc, ils voulaient mieux comprendre. Donc, on leur a fait des formations disruptives, je vais vous donner des exemples, on les met ensemble, on leur fait faire des jeux de rôle, on leur donne des cas concrets. Après, on peut leur donner une publicité en leur disant, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle vous choque? Est-ce qu'elle ne vous choque pas? Et ce qui est intéressant, c'est leur retour par rapport, je dirais, à leur âge, par rapport aux générations. Et c'est hyper important. Et à la fin, on fait un rétexte, en fait, et on discute tous ensemble. Et je ne dirais pas qu'ils en ressortent grandis, mais ils en ressortent avec une autre vision. Et parfois, j'ai des retours de ceux qui prennent le métro et qui me disent, effectivement, j'ai vu une pub dans le métro, ce n'est pas correct. Vous voyez, elle est sexiste ou elle est féministe ou alors elle pose question, c'est des stéréotypes, des préjugés, et ça c'est bien. En fait, le but c'est ça, le but c'est d'éveiller leur curiosité et qu'ils se disent, mais tiens, effectivement, ce que j'ai là c'est des stéréotypes, en fait, c'est des préjugés. En fait.
J'aime bien l'approche, effectivement, de. Il faut se dire qu'on n'est pas inclusif par nature et on a tous nos biais, et donc. Un gendarme ou une gendarme a également ses biais, ses lunettes qui biaisent ses comportements, ses agissements, ses réactions. Et donc, évidemment, d'où l'importance de former, de sensibiliser, de donner les clés et les outils. Je fais le parallèle, évidemment, avec l'entreprise. Mais on ne peut pas en vouloir à un salarié qui va avoir des agissements inappropriés si on ne lui a pas donné les clés. Je ne parle pas d'une main aux fesses, ça, je pense que tout le monde a compris. Tout le monde a compris que c'était une agression sexuelle. Moi, je parle de choses où on a l'impression que oh, c'est pas grave, oh, ça va, on peut plus rigoler. Hein. Mais en fait, non, on est en entreprise, tout comme quand on est, j'imagine, sur le domaine public. Et voilà, il y a des choses qui ne se font pas. Et si on doit donner ces clés, effectivement, tout comme vous les donnez, ces clés de compréhension. À vos gendarmes, l'entreprise se doit de les donner à ses salariés pour comprendre pourquoi, en fait. Pourquoi ce n'est pas OK de dire ça ou de voir ça. J'aime beaucoup l'exemple de la pub, de dire bah, ça, c'est pas OK. Mais si vous ne leur donnez pas ces verres correcteurs pour avoir une nouvelle lecture, finalement, des sujets, on l'a pas de nature. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter.
Et voilà, et vous avez parfaitement raison. Les publicités, il y en a une que j'apprécie tout particulièrement parce que moi, je l'utilise. C'est une publicité qui est interdite. Vous savez, c'était sur Banania. Et je leur montre les anciennes publicités et je leur demande ce qu'ils en pensent. Et en fonction des générations, c'est intéressant. Avec un post-it, je fais le test du post-it. Chacun me met un mot. Donc il y a des anciens, entre guillemets, attention, parce que moi je suis ancienne, donc pas de préjugés, qui vont me dire par exemple chocolat chaud. Vous voyez, qui vont me dire enfance. Il y en a d'autres qui vont me dire intolérable. Alors, c'est intéressant parce que c'est une des publicités que je propose pour voir un petit peu leur réaction. La publicité, aujourd'hui, elle est interdite, Banania. Et je leur demande s'ils la connaissent. Et donc, je leur montre la publicité qui était à l'époque et la nouvelle d'aujourd'hui qui n'a rien à voir. Et c'est intéressant. En fonction des générations, et c'est souvent ça, même les hommes, les femmes, je leur fais le test du post-it. Et avec le post-it, ils me mettent un mot. J'en ai qui vont me mettre enfance, chocolat chaud, chaleur, douceur. Il y en a qui vont me dire inadmissible, raciste, honteux, SOS. Alors, il y en a qui m'a mis touche pas à mon pote. Enfin, voilà, c'est intéressant. Et après, je leur mets les post-it. Et quand ils voient les post-it, ils me disent ah oui, effectivement. Et chacun va voir donc le post-it de l'autre. Mmh. Ça, c'est intéressant. Et de ça, il y a une réflexion commune. Celui qui a dit chocolat chaud va dire à celui qui a dit racisme, non mais bon, t'exagères. Celui qui a dit racisme va dire, ok, je comprends, la poudre dans le chocolat, c'était bon, c'était notre enfance, mais t'as vu la pub qu'il y a, c'est inadmissible. Et à la fin, en fait, chacun va sortir grandi de l'expérience de l'autre. Et en fait, chacun va se nourrir de l'autre. Et en fait, c'est le but, moi. En fait, moi, le but, c'est que chacun apprenne de l'autre pour qu'après, il y ait une réflexion commune et que le soir, on sorte grandi. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'il faut se tourner vers les autres. Il ne faut pas rester, je dirais, inclusif entre soi.
Ah oui,
et c'est hyper intéressant, ça. Mmh. Et c'est pareil pour les jeux de rôle et tout. Et on parlait de nos biais. On en a tous des biais. Et je parlais, par exemple, je me cite un exemple. Par exemple, moi, je fais du sexisme bienveillant. Parce que moi, je suis maman de 3 enfants, mais je suis honnête. Hein. Le sexisme bienveillant. Quand des jeunes arrivent, je vais leur dire bah, tiens, petit père, fais-moi ci, petite mère, fais-moi là. Je vais être plutôt maternelle. Sauf que les gamins n'ont peut-être pas forcément envie que je leur dise petit père et petite mère. Donc, c'est du sexisme bienveillant, mais quelque part, c'est déplacé. Et donc, maintenant, vous voyez, j'ai mes biais et je fais hyper attention à ce que je dis. Parce que quelque part, je peux les mettre mal à l'aise. Je peux leur faire de la peine et ça peut leur porter préjudice. Oui, ce qu'ils n'oseront pas me dire, en fait. Mmh. Alors qu'ils ont toute leur place en tant que gendarme, en tant que gendarme adjoint, et non pas en tant que petit père à sa maman, petit père à son papa. Mais faut-il encore que moi, je le comprenne. Et c'est pour ça qu'il faut faire de l'introspection, me dire attention, je ne suis pas mieux que les autres et je dois faire attention à ce que je dis pour ne pas blesser la personne qui est en face. Et là où je vous rejoins tout à l'heure, c'est l'humour. On fait également un module sur l'humour. Aujourd'hui, il y en a qui me disent, oui, mais on ne peut plus rien dire. Bien sûr que si, on peut avoir de l'humour. Mais comme je dis, on rit avec et on ne rit pas d'eux. Et on peut rire de tout, bien sûr, mais pas n'importe où. Attention au contexte, ce n'est pas que n'importe qui. On est bien d'accord. L'humour, au départ, c'est commun. C'est un moment de bonheur, c'est partagé, c'est comme le chocolat chaud. Il ne faut pas que ça soit déplacé, mal interprété. Ça peut faire mal à la personne qui ne le dira pas. Et au final, après, la personne, elle en souffrira. Elle sera moins performante au boulot. Et après, elle se mettra en arrêt maladie. Puis on se dira, mais c'est bizarre ça. Et ce sera trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et c'est ce que je leur explique, voilà, au fur et à mesure des formations. Voilà.
Merci beaucoup. En effet, non, on ne peut pas rire de tout. Non, on ne peut pas rire de tout et il faut être, bah oui, juste un peu plus créatif et avoir un peu plus d'humour pour chercher des choses qui font rire pour le coup tout le monde et qui ne stigmatisent pas une partie de la population. En effet, quitte à paraître chiant, c'est assumé. De manière très concrète, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions sur le terrain que vous menez justement pour faire évoluer ces mentalités et faire prendre conscience des biais? On a parlé de la formation, on en a beaucoup parlé évidemment, je sais que c'est le cœur de votre plan d'action. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont mises en place en dehors de la formation pour justement faire de la Gendarmerie nationale une institution plus inclusive?
Eh bien, en fait, justement, donc, cette année pour 2023, donc, on a décidé d'aller encore au plus près du terrain. C'est-à-dire que là, cette année, on a une note d'organisation. Et donc là, je vais personnellement me déplacer dans toutes les régions, c'est-à-dire les 13 régions. Et là, je vais aller donc, au contact des commandants de formation administrative, comme j'irai au contact des directeurs des chefs d'entreprise, en fait, pour échanger avec eux, parce que parfois, ce n'est pas toujours facile, évident, décliner la politique, bien sûr, du ministère, mais voir un petit peu ce qui se passe en local. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fonction des régions, c'est différent. La vision qu'on va avoir, je dirais, de l'égalité pro et de la diversité dans une zone rurale, elle sera différente que dans une zone périurbaine ou urbaine. Et attention à ne pas faire de la discrimination justement par rapport à ces zones rurales. Et donc, comme je dis, ce qu'il faut faire, c'est aller vers. Donc, c'est la politique de notre DG, mais c'est également de la politique que je vais suivre aussi, bien entendu. C'est-à-dire, je vais me déplacer dans les régions, dans les groupements, aller au contact des référents, écouter un petit peu les problèmes qu'ils ont, parce qu'ils ont parfois des problèmes, voir également si on peut tisser des liens avec les autres services. Et je vais vous donner des exemples. C'est le cas donc, avec le SDIS de la sécurité civile, le SDIS 69, qui nous avait contacté justement pour mener des actions communes. Et ça, on a également le SDIS des Landes avec la préfecture qui nous a demandé pour faire des actions ensemble. Parce que, comme vous avez dit, plus on est ouvert aux autres, entre guillemets, mieux c'est. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc cette année, ça va être ça. C'est la politique d'aller vers.
Donc être au plus proche du terrain et nouer finalement des partenariats pour que ensemble vous puissiez faire avancer les sujets.
Et surtout aussi, pardon, je vous coupe, et surtout également recueillir leurs témoignages. Parce qu'on est au niveau central, et là aussi en centrale, c'est biaisé parfois. Et c'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain. Et en fait, c'est ça que je veux dire. Il faut aller à la rencontre des personnels, échanger avec eux, discuter, avoir leur témoignage et leur retour, et voir ce qu'il y a qui va et qui ne va pas, et comment on peut arranger les choses.
C'est très bien parce que je, capitaine de T, je fais le rapport un peu avec le monde de l'entreprise. Et finalement, certaines entreprises nous disent « Ah, vous savez, nous, tout va bien, on n'a pas besoin de parler de ces sujets-là. » Et finalement, vous nous le démontrez une nouvelle fois aujourd'hui, c'est évidemment en parlant de ces sujets avec les principaux concernés que sont effectivement les gens sur le terrain ou les salariés d'une entreprise, qu'on se rend compte des situations, qu'on se rend compte des choses inappropriées qui se passent dans les organisations et qu'on peut ensuite mettre en place les actions correctives pour justement améliorer et faire que chacune et chacun puisse se sentir bien dans ses baskets, quel que soit son métier. Alors, je le disais tout à l'heure, le 8 novembre dernier, chez TF1, la ministre Isabelle Rome vous a remis le Grand Prix Diversité et Inclusion. Qu'est-ce que cette récompense représente pour vous ?
Alors, au départ, honnêtement, une grande fierté. Très, très, très fière d'avoir reçu le Grand Prix. D'ailleurs, vous voyez, je suis toujours émue aujourd'hui. D'ailleurs, il est dans mon bureau, il est à côté de moi. Là, j'en prends grand soin. Non, c'était une grande fierté. Et puis, en fait, avoir le sentiment que notre action... Donc de tout notre réseau est reconnu. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix, en fait, parce que c'est bien de s'engager au quotidien. Et même si on n'attend rien, je veux dire, avoir un retour, et en plus un retour de l'extérieur, pour nous, ça nous fait grandir. Et voilà, ça nous permet également de voir autre chose, de voir que les entreprises s'intéressent à nous. Peut-être également de nous rapprocher des entreprises qui étaient là ce soir-là pour faire éventuellement des échanges avec eux. Et ça, c'est voir un peu les bonnes pratiques, en fait, c'est ça. Hein. C'est apprendre des bonnes pratiques et pour être encore plus performant dans les années à venir, si un jour on ressollicite justement, on vous ressollicite pour, si on candidate à nouveau pour ce Grand Prix, quoi. Mais avant tout, ouais, une grande fierté et de montrer qu'une administration comme la nôtre peut également, je dirais, recevoir de tels prix, quoi. Voilà. Et en plus, le Grand Prix.
Encore félicitations, le jury était composé l'année dernière de 28 membres qui sont des dirigeants d'entreprise, dirigeants associatifs, j'avoue que tout le monde a été assez unanime pour récompenser la Gendarmerie nationale qui était peut-être dans l'esprit de chacune et chacun, peut-être pas l'institution la plus naturelle pour être engagée sur ces sujets-là. Donc c'est d'autant plus encourageant et vraiment, encore une fois, félicitations pour tout ce que vous faites. Alors, pour terminer, c'est un petit rituel sur ce podcast. Capitaine de T, est-ce que vous pouvez partager un conseil avec nos auditrices et auditeurs, ceux qui nous écoutent et qui auraient envie d'avancer sur ces sujets, mais qui ne savent pas forcément par où commencer? Quel conseil pratique leur donneriez-vous?
Alors, je leur dirais déjà, déjà ce qu'il faut, c'est être connu et reconnu. Et pour être connu et être reconnu, il faut être bien sûr modeste, mais il faut aller à la rencontre des salariés, il faut aller à la rencontre des personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est hyper important. Après, il faut communiquer, mais en fait, on n'est pas des donneurs d'ordre, ni je dirais des personnes qui vont faire de la morale, surtout pas. Ce qu'on fait au niveau du réseau, souvent, on fait des quiz. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour. Bienveillant. On essaie d'aller vers les personnes, de plaisanter avec elles, de leur donner quelque chose de ludique, hein, de façon à ce qu'on ait un retour. C'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit que c'était disruptif. Donc en fait, le conseil, c'est écouter. Voilà. Parce que si on écoute, on reçoit. Et si on reçoit, ça nous enrichit, on apprend de l'autre, et après, c'est de mieux vivre ensemble. Parce que comme on dit toujours, c'est nos différences qui nous unissent. Bien, justement, c'est là. Il faut avoir de la main tendue.
Ce sont nos différences qui nous unissent. Ce sera le mot de la fin pour conclure sur cette saison 2 du podcast et cet épisode très enrichissant. Merci beaucoup, capitaine de T. Bravo encore à vous et à toutes les équipes de la Gendarmerie nationale pour tout ce que vous faites au quotidien pour nous. Merci.
Merci à vous en tout cas. On nous sommes vraiment très fiers. Merci et à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à découvrir tous les autres, y compris ceux de la saison 1, sur notre site internet www.afldiversity.com et suivez-nous sur les réseaux, en particulier la page AFL Diversity sur LinkedIn pour suivre toutes nos actus. J'espère que cet épisode vous aura inspiré, donné des idées, des clés pour faire avancer le sujet en entreprise, car c'est bien tous ensemble que nous pouvons faire bouger les lignes afin de rendre la société plus inclusive. À très bientôt.